La Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Alors nous revoilà en Russie encore une fois à la découverte des femmes artistes créatrices. Toutes ces femmes de ce début milieu XXe siècle sont plus ou moins plongées dans la tourmente de la révolution bolchévique, puis ensuite dans celle de la guerre contre les Allemands en 1940. Nous avons surtout rencontré des écrivaines, poétesses pour enfants, notamment Anya Bartow et Yelena Blaginina, dont les destinées nous ont semblé plus légères que celles d'artistes précédentes, comme par exemple celle de Marina Tsvetaeva, qui, suite à un état de dénuement matériel et de solitude totale, avait mis fin à ses jours. Alors nous avons rencontré la musicienne Sophie Carmen Eckhardt-Gramaté, qui elle finalement exprimera sa vocation sous d'autres cieux que ceux de la Russie, puisqu'elle prendra même la nationalité canadienne. Et nous avons fini l'émission avec une poétesse journaliste du nom de Olga Bergholtz, qui plongeait en plein cœur de la tourmente bolchévique et ensuite de la guerre de 40, trouvera la force de résister, de tenir tête malgré les épreuves physiques, psychologiques, comme la famine, le marasme ambiant ou la perte de ses proches. Alors aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Vera Imbert, qui elle est née en 1890 et fut poétesse, écrivaine, romancière, mémorialiste, témoin du siège de Leningrad pendant la guerre 40 face aux Allemands. Vera Imbert verra le jour dans une famille éduquée, en tout cas amoureuse des lettres, puisque son père est éditeur et sa mère professeur de russe, bon, ce qui aide quand même à l'épanouissement d'une carrière littéraire. Vera Imbert poursuivra ses études à la faculté d'histoire et de philosophie des cours supérieurs pour femmes d'Odessa. Elle épousera ensuite un journaliste pour partir avec lui à Paris, où elle publiera son premier recueil de poésie. Et c'est à l'âge de 30 ans, en 1920, qu'elle reviendra en Russie pour écrire dans de nombreux journaux. Alors elle voyagera également en tant que journaliste dans plusieurs villes d'Europe, comme Paris, Berlin, Bruxelles, et s'intégrera à Moscou à un groupe littéraire orienté vers le constructivisme et fondé par un poète nommé Ilya Stevinsky, et il s'agit du groupe LTSK. Alors dois-je vous rappeler ce qu'est le constructivisme ? Alors globalement, il s'agit d'un courant artistique spécifiquement russe qui cherche à s'opposer à la tradition et accompagne le renouvellement social apporté par la révolution bolchévique en proposant un art populaire, simple, compréhensible par tous, intégré au quotidien d'un peuple tourné vers le futur et les nouvelles technologies industrielles. Cet art, constitué de formes simples et géométriques, s'inspire donc du cubisme et du futurisme, en vogue à l'époque un peu partout en Europe et donc à l'étranger. Alors pour en revenir à Vera Imbert, elle aurait participé aussi à un roman feuilleton collectif qui aurait réuni des écrivains divers, dont Alexis Tolstoï, célèbre en France, d'autres encore plus connus en Russie comme Mikhaïl Zotcheno, Léonid Léonov, Alexandre Green, si ces noms vous parlent. Bon, je n'ai pas plus d'informations sur ce travail collectif. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors la Seconde Guerre mondiale la met en première ligne du siège de Leningrad, ce qui veut dire 900 jours de famine concoctés par les nazis pour éradiquer les Russes. C'est un charmant programme. Elle continue d'écrire pour les journaux, mais aussi des ouvrages dont les témoignages de cette période sont dramatiques. Et c'est ainsi son ouvrage intitulé « Le siège de Leningrad », écrit sur le sujet en 1945 et qui aura été traduit en français et publié aux éditions Albin Michel en 1946. Et elle participera en outre à l'écriture de ce qui a été intitulé « Le livre noir », qui a impliqué à sa rédaction une quarantaine d'auteurs et qui a été élaboré par le comité antifasciste juif mobilisés pour attirer l'attention populaire sur l'extermination des Juifs et leur participation à la résistance armée pendant la guerre qui opposait Russes et Allemands. Alors, ce livre est un recueil de témoignages horribles, étayés de documents divers, dont des essais rédigés par des auteurs, dont Vera Imbert, qui était, soit dit en passant, d'origine juive. Et d'ailleurs, à ce livre noir participera une autre écrivaine, poétesse, journaliste, nommée Margarita Aliguer, qui elle est née en 1915. Alors, je vais aussi vous relater un peu son cursus. Alors, elle, c'est adolescente qu'elle commencera à écrire ses premiers vers, tout en suivant des études secondaires à Moscou. Et elle débutera dans la vie comme bibliothécaire pour devenir ensuite rédactrice d'entreprise. Et c'est à 19 ans qu'elle suivra des études littéraires à l'Institut de littérature Maxime Gorki, qui est une école qui accueillera de nombreux futurs écrivains, poètes et traducteurs. Et elle-même traduira des textes, surtout de l'Ouzbékistan, en poursuivant ses activités journalistiques pour des revues et quotidiens russes. À 23 ans, elle publiera son premier recueil intitulé « L'anniversaire », puis un second en 1939 intitulé « Train » et un troisième en 1940 intitulé « Les pierres et l'herbe ». Et dans la foulée, eh bien, elle rejoindra l'Union des écrivains soviétiques. Ensuite, elle deviendra correspondante de guerre pendant la guerre qui oppose les Russes aux Allemands. À ces moments, elle écrira des œuvres en écho à ce qu'elle vit, l'une intitulée « Lyrique » ou l'autre intitulée « Zoya Kosmodemianskaya ». En hommage à une jeune résistante soviétique qui fut pendue par les nazis à l'âge de 18 ans et qui, bien que morte, sera encore massacrée aux yeux de tous pour servir d'élément dissuasif. Bref, une horreur d'abjection où ni la vie ni les morts ne sont respectés. Ben oui, en temps de guerre, tout semble permis et tout est permis, même le pire et je dirais surtout le pire. Et c'est d'ailleurs avec ses témoignages, son travail de rédactrice impliquée, que Margarita Aliguer obtiendra le prix Staline pour récompenser, paraît-il, les opposants, alors je vous le donne en mille, aux dictatures. Bon, ça me fait rire, c'est nerveux. Bon, après quand même une assez longue vie, Margarita Aliguer décédera en 1992 à l'âge de 70 ans en survivant, mais hélas pour elle, à ses deux maris et ses trois enfants. Bon, ce qui n'est guère dans l'ordre des choses est toujours terrible de survivre à ses enfants quand on est maman ou papa d'ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, vous trouverez, si cette personnalité vous intéresse, en français, une biographie et des poésies de Margarita Aliguer dans une anthologie de la poésie russe publiée chez Segers en 1965. Alors, je constate que les femmes russes manient facilement la plume et les mots, mais j'ai bien peur que les œuvres ne sont pas toujours faciles à trouver. Aussi, quand elles le sont, ben, saisissons l'occasion. Alors, pour rester en quelque sorte dans le contexte de cette période de guerre, puisque nous y sommes, et qui oppose la Russie à l'Allemagne dans les années 40, mais dans une ambiance plus propice à susciter un espoir en l'avenir et en la solidarité humaine, je vous demanderai de vous souvenir, si possible, du chant des partisans, diffusé un peu partout et notamment sur les ondes françaises en 39-40, puisqu'il s'est imposé en quelque sorte comme signe d'éralliement des résistants français et repris par des artistes au cours du temps, comme par Mireille Mathieu, Yves Montand, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, entre autres, et en plus de l'auteur elle-même. Alors, souvenez-vous aussi que je vous avais présenté le compositeur ou la femme compositeur à l'origine de ce chant des partisans, ce chant qui lui aurait été inspiré par une lecture sur la guerre opposant Russes aux Allemands, justement. C'est d'autant plus marquant que cette personne est d'origine russe, émigrée et adoptée par la France. Elle se nomme Anna Betulinskaya, mais se connaît davantage grâce à ses chansons sous le pseudonyme de Anna Marley. Alors, dans cet autre numéro de La Voix des Arts, hein, la 75, je crois, je vous avais présenté cette artiste très créative, puisqu'elle aurait composé plus de 300 chansons, dont certaines avaient été interprétées par Édith Piaf. Et je vous avais fait écouter à ce moment une autre chanson dont elle avait seulement composé la musique. Et cette chanson s'intitulait « La complainte du partisan ». Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur cette artiste maintenant décédée, elle a écrit un livre de mémoire intitulé « Anna Marley, le troubadour de la résistance ». Enfin, quoi qu'il en soit aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir écouter le chant des partisans, dont les paroles ont été revues et francisées par la collaboration combinée de l'écrivain politique français Maurice Druon et du romancier Joseph Kessel, qui va être interprété ici par les Stentors, un petit groupe de quatre hommes dont les belles voix harmonieuses et vibrantes s'adaptent à ravir, à mon goût en tout cas, à la fois au sens des paroles et à la beauté lancinante de la musique. Et puis quelques hommes dans cette émission sur les femmes, cela ne nous fait pas de mal non plus, et rétablit ainsi un certain équilibre naturel, même s'il ne s'impose pas dans le sujet. En tout cas, c'est bien agréable et j'espère que vous serez d'accord. Mais trêve de bavardage et place maintenant au chant des partisans de Anna Marley, interprétée par les Stentors.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau. Brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit la liberté nous
poétesse écrivaine, parmi celles qui ont également participé à l'élaboration de ce fameux livre noir, il y aurait eu une enseignante, un critique littéraire, qui écrivait également dans des revues, nommée Valeria Gerasimova, née en 1903 et épouse de deux écrivains soviétiques, l'un nommé Alexandre Fedejiou et l'autre Boris Lewin. Et elle aurait écrit sur l'Holocauste et les crimes de la Wehrmacht en Biélorussie. Alors j'ai rencontré encore d'autres poétesses, comme par exemple Lula Drunina, née en 1924, qui est surtout connue, paraît-il, pour ses poèmes consacrés à cette guerre qui oppose dans les années 40 les Russes aux Allemands. À l'époque, c'était une vétérante au grade de sous-officier des services médicaux. Elle sortira diplômée comme Margarita Liguer de l'Institut de littérature Maxime Gorki et publiera ses premiers vers dans une revue en 1945. En 1990, elle deviendra même députée du Soviet suprême de l'Union soviétique et c'est le moment de grandes réformes économico-sociopolitiques engagées par le président du moment, Mikhail Gorbatchev. Alors certains d'entre vous se souviendront certainement de la perestroïka. Alors elle participera par la suite au putsch de Moscou, impulsé par les communistes conservateurs pour destituer Mikhail Gorbatchev. Mais pour la suite des événements, que s'est-il passé dans son esprit ou dans sa vie? Bon, je ne saurais trop le dire. Quoi qu'il en soit, il est dit qu'elle a été retrouvée morte par asphyxie. Alors, il s'agirait d'un suicide, car un mot laissé à son entourage le prouverait. Et elle avait 67 ans. Alors, je vais maintenant vous présenter une autre musicienne, puisqu'elle est compositrice et pianiste. Son nom est Tatiana Nikolaeva. Elle est née en 1924. Elle baigne à l'origine dans le milieu musical, puisque sa mère est pianiste professionnelle et son père violoniste et violoncelliste. Alors j'ai lu qu'elle a débuté l'apprentissage du piano à 3 ans et a composé dès l'âge de 12 ans. À son tour, elle recevra un enseignement plus conséquent du conservatoire Tchaïkovski de Moscou pour obtenir son diplôme en 1948 à l'âge de 24 ans. Ensuite, elle étudiera la composition. Entre-temps, elle composera. Alors qu'a-t-elle composé ? Alors c'est une musique plutôt classique avec chansons, concertos, symphonies. Et son premier concerto sera d'ailleurs interprété par l'Orchestre symphonique d'État du RSS. En 1950, elle remportera le concours international Jean-Sébastien Bach. Et elle deviendra ainsi l'une des interprètes au piano des plus grands compositeurs, Bach, Beethoven, Shostakovich, entre autres, dont elle sera pour ce dernier une amie et embrassera ainsi une carrière internationale. Et elle enseignera également dès 1959 au Conservatoire de Moscou et recevra hommage et prix pour son travail, mais décédera d'une hémorragie cérébrale en 1993 à l'âge de 69 ans. Alors nous allons l'écouter. Bon, je veux dire, j'ai eu quelques mal avec mes outils à trouver de ses compositions. Elle se présentait davantage comme l'interprète d'autres compositeurs, mais j'ai quand même pu écouter deux concertos, dont un que vous allez entendre maintenant, du moins une partie. Il y a de belles envolées, je dirais plutôt romantiques, alors à vous de juger. Et place à Tatiana Nikolaeva avec son concerto pour piano numéro 1, composé en 1951.
Thank you.
Alors, je vais terminer cette série sur la Russie avec une poétesse femme de lettres née en 1830 qui se nomme Lina Kostenko, qui elle aussi est entrée à l'Institut de littérature Maxime Gorki de Moscou après avoir fréquenté un atelier littéraire. Elle commencera à publier ses premiers poèmes à l'âge de 16 ans, en 1946. J'ai relevé dans sa biographie ses rapports avec ses parents et notamment ce qu'elle entretenait avec son père et son incompréhension lorsque celui-ci a été arrêté comme ennemi du peuple et exilé loin des siens pendant 10 ans. Alors il est vrai que l'image qu'elle donne de son père, corroborée par d'autres, c'est celle d'un être moral et bon et aussi d'un érudit capable d'enseigner toutes les matières et de s'exprimer dans une douzaine de langues. Bref, une intelligence, un être supérieurement doué, qui tout d'un coup est arraché à sa famille et forcé à l'exil. Alors peut-on supposer que ce monsieur possédait un potentiel incompatible avec les exigences égalitaires imposées par le régime ? Bon, tout est possible en ce bas monde et moi en ce qui me concerne, eh bien plus rien ne m'étonne. Alors pour en revenir à Lina Kostenko, c'est après son diplôme de l'Institut de littérature Maxime Gorki qu'elle publiera son premier recueil de poésie intitulé « Les rayons de la terre, puis les voiles » en 1958 et « Le voyage du corps, du cœur » en 1961. Alors elle aussi, avec la censure et l'idéologie du parti en place, à un certain moment de son existence, ne pourra plus agir ni publier certains de ses écrits. Bon, apparemment, les choses s'arrangeront pour lui permettre de continuer à s'exprimer. Alors d'autres femmes, d'autres artistes, d'autres créatrices succéderont à toutes celles que je viens de nommer. Elles rentrent dans la seconde période du XXe siècle. Pour ma part, je vais m'arrêter ici. Nous allons quitter la Russie. Je suis consciente que la période que je vous ai présentée n'était pas la plus facile à aborder en raison de tous ces drames, de toutes ces souffrances, ces privations qui sont inscrites à jamais sur le tableau noir de l'histoire, cette première moitié du XXe siècle, sans compter ce qui suit dans d'autres parties du globe. Mais cela vaut, hélas, pour bien des pays en Europe, sans compter les guerres civiles, et souvenez-vous de l'Espagne. Alors nous nous retrouverons pour aborder d'autres sujets sur les femmes artistes. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts, suffisamment instructive, je l'espère, pour vous. Et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. La Voix des Arts, présenté par Christine Darboux.